13e jour. 25 mai 2010. Chemin du Roi. Cheminement. Chapitre 83. C'était il y a 13 jours, le 13 mai. Depuis, j'ai passé mes journées à revivre ces quelques heures où l'on me vola ma vie, à me repasser le film pour tenter de comprendre l'inimaginable, une dernière fois, avant d'en finir. À force de me promener seule dans ce village, vous avez dû me prendre pour un fantôme. En réalité, c'est l'inverse. Je suis bien réelle. Ce sont tous les autres, les fantômes de mes souvenirs. J'ai peuplé de mes fantômes ces endroits où j'ai toujours vécu. Devant chaque lieu où je suis passée, je me suis souvenue. Le moulin, la prairie, l'école, la rue Claude Monet, la terrasse de l'hôtel Baudy, le cimetière, le musée de Vernon, l'île aux orties. Je les ai aussi peuplées des longues conversations que j'ai eues avec Silvio Benavides entre 1963 et 1964. Après que l'enquête sur le meurtre de Jérôme Morval eut été classée sans suite. L'inspecteur Silvio Benavides s'est accroché avec entêtement, mais n'a jamais découvert la moindre preuve, le moindre nouvel indice. Nous avions sympathisé. Au moins Jacques n'était pas jaloux de mes échanges avec cet inspecteur-là. Silvio était un mari fidèle et un père attentionné pour sa petite Carina, qui avait eu tant de mal à quitter le ventre de sa maman. Silvio m'a raconté tous les détails de l'enquête qu'il avait menée avec Lorenz, au commissariat de Vernon, à Cocherelle, au musée de Rouen et de Vernon. Puis, au milieu des années 1970, Silvio fut muté à La Rochelle. Il y a un peu plus de 10 ans, en septembre 1999 pour être précise. Vous voyez à quel point ma mémoire fonctionne encore parfaitement. J'ai reçu une lettre de Béatrice Benavides, une courte lettre manuscrite. Elle me racontait avec pudeur que Silvio Benavides venait de les quitter, elle et Carina, un matin, emportée par un infarctus. Comme tous les jours, Silvio avait enfourché son vélo pour faire le tour de l'île d'Oléron, où il louait en famille un bungalow pendant l'arrière-saison. Il était parti souriant. Le temps était superbe, un peu venteux. Il s'est écroulé devant l'océan, au milieu d'un léger faux plat, entre la Brée-les-Bains et Saint-Denis-d'Oléron. Silvio avait 71 ans. C'est cela vieillir, voir mourir les autres. Il y a quelques jours, j'ai écrit une courte lettre à Béatrice pour tout lui expliquer. Une sorte de devoir de mémoire en souvenir de Silvio. La richissime fondation Robinson n'avait rien à voir dans ces meurtres. Pas plus que les trafics d'Amadou Candy, les toiles de Monet oubliées ou les maîtresses de Morval. Lorenz Serenac avait raison depuis le début. Il s'agissait d'un crime passionnel. Seul un détail inimaginable l'avait empêché de découvrir la vérité. Le criminel jaloux ne s'était pas contenté d'éliminer les amants supposés de sa femme. Il avait également supprimé les amis d'une fillette de 10 ans, dont il était déjà amoureux. Je n'ai pas encore posté cette lettre. Je ne pense pas le faire au final. Cela importe si peu maintenant. Allez, il faut que je m'active. Je jette avec dégoût l'enveloppe du docteur Berger à la poubelle. Elle rejoint les prospectus sordides. Je lève les yeux vers la tour du moulin. J'hésite. Mes jambes peinent à me porter. Cette ultime promenade à l'île aux orties m'a épuisée. Je suis partagée entre retourner une dernière fois dans le village ou rentrer directement chez moi. J'ai longtemps réfléchi tout à l'heure sur les bords de l'Epte. Comment en finir maintenant que tout est en ordre? J'ai tranché. J'ai renoncé à utiliser le fusil de Jacques. Mon Dieu, je pense que vous comprenez pourquoi maintenant. Pas question non plus d'avaler des médicaments pour agoniser pendant des heures, des jours à l'hôpital de Vernon, comme Jacques, mais sans personne pour venir débrancher ma perfusion. Non, la méthode la plus efficace pour en finir sera d'achever tranquillement cette journée comme les autres, de rentrer au moulin, de monter dans ma chambre, en haut du donjon, au quatrième, de prendre le temps de ranger mes affaires, puis d'ouvrir la fenêtre et de sauter. Je me décide à retourner vers le village. Finalement, mes jambes supporteront bien un kilomètre de plus. Un dernier kilomètre. Tu viens, Neptune. Si quelqu'un, n'importe qui, un passant, un touriste s'intéressait à moi, il pourrait croire que je souris. Il n'aurait pas complètement tort. Passer ces 10 derniers jours en compagnie de Paul, en compagnie de Lorenz, a fini par apaiser ma colère. Je longe à nouveau le chemin du roi. Quelques instants plus tard, je me retrouve devant le bassin aux nymphéas. À la mort de Claude Monet en 1926, les jardins furent presque laissés à l'abandon. Michel Monet, son fils, habita la maison rose de Giverny jusqu'à son mariage en 1931 avec le mannequin Gabriel Bonaventure, dont il avait eu une fille, Henriette. Lorsque j'avais 10 ans, en 1937, avec les autres enfants du village, nous avions pris l'habitude de nous introduire dans les jardins par un trou dans le grillage, côté prairie. Moi, je peignais. Les garçons jouaient à cache-cache autour du bassin. Sur place, il n'y avait plus qu'un jardinier qui entretenait le domaine, Monsieur Blin, et Blanche, la fille de Claude Monet. Il nous laissait, on ne faisait pas de mal. Monsieur Blin ne pouvait rien refuser à la petite Fanette, si jolie avec ses yeux mauves et ses rubans d'argent dans les cheveux, et si douée en peinture. Blanche Monet est morte en 1947. Le dernier héritier, Michel Monet, continua d'ouvrir exceptionnellement les jardins et la maison pour des chefs d'État étrangers, des artistes, des anniversaires particuliers, et pour les enfants de l'école de Giverny. J'avais réussi à le convaincre. Ce ne fut pas bien difficile. Comment résister à la petite Fanette, devenue la belle Stéphanie, l'institutrice au regard nymphéa, si cultivée pour tout ce qui touche à la peinture, qui essayait, année après année, de passionner les enfants du village pour l'impressionnisme, de les faire concourir au prix artistique de la Fondation Robinson avec une telle énergie, une telle sincérité, comme si sa propre vie dépendait de l'émotion qu'elle transmettait à ses élèves. Michel Monet ouvrait les jardins pour ma classe, une fois par an, en mai, lorsque le parc est le plus beau. Je me retourne. J'observe un instant la foule agglutinée sous la cathédrale de roses, les dizaines de visages tassés aux fenêtres de la maison du peintre. Dire que nous étions seuls dans cette maison, en juin 1963, Lorenz et moi. Dans le salon, l'escalier, la chambre, mon plus beau souvenir, sans aucun doute. Ma seule et unique tentative d'évasion. Michel Monet est mort dans un accident de voiture 3 ans plus tard, à Vernon. après la lecture de son testament début février 1966, une incroyable ruée convergea vers la maison de Giverny. Gendarmes, notaires, journalistes, artistes. J'y étais, moi aussi, comme les autres Givernois. À l'intérieur de la maison et des ateliers, les huissiers découvrirent avec stupéfaction plus de 120 toiles, dont 80 de Claude Monet, y compris des nymphéas inédits, et 40 tableaux de ses amis, Sisley, Manet, Renoir, Boudin. Vous vous rendez compte? Il s'agissait là d'un trésor incroyable, une fortune inestimable, presque oubliée depuis la mort de Claude Monet. Enfin, oubliée, beaucoup de Givernois connaissaient, avant 1966, la valeur des chefs-d'œuvre entreposés dans la Maison Rose, abandonnée là pendant 40 ans par Michel Monet. Tous ceux qui avaient eu l'occasion d'entrer dans la maison les avaient vus. Moi aussi, bien entendu. Depuis 1966, ces 120 tableaux peuvent être admirés au musée Marmottan, à Paris. C'est la plus grande collection de Monet exposée dans le monde. Pour ma part, après 1966, plus jamais je n'ai emmené les enfants au jardin de Monet. Il n'ouvrit au public que bien plus tard, en 1980. Il était bien naturel, après tout, qu'un tel trésor soit partagé entre le plus grand nombre, que la bouleversante beauté des lieux soit offerte à chaque âme capable de la saisir. Pas seulement à celle d'une petite fille tellement éblouie par leur éclat qu'elle y brûla ses rêves. Je tourne à droite. Je remonte vers le bourg par la rue du Château d'Eau. La maison de mon enfance n'existe plus. Après la mort de ma mère en 1975, elle était devenue un véritable taudis. Elle a été rasée. Les voisins, des Parisiens, ont racheté le terrain et ont élevé un mur de pierre blanche de plus de 2 mètres. À la place de ma maison, il y a sans doute un parterre de fleurs, une balançoire, un bassin. En réalité, je n'en sais rien. Je n'en saurai jamais rien. Il faudrait pouvoir regarder par-dessus le mur. Je parviens enfin au bout de cette rue du Château d'Eau. Le plus difficile est fait. Dire que je courais plus vite que Neptune dans cette rue lorsque j'avais 11 ans. Maintenant, le pauvre, c'est lui qui passe son temps à m'attendre. Je tourne rue Claude Monet, l'autoroute à touristes. Je n'ai même plus envie de grogner après la foule. Giverny me survivra, différent, éternel, lorsque tous les fantômes d'un autre temps auront disparu. Amadou Candy, sa galerie d'art et ses trafics, Patricia Morval, moi. Je marche. Je ne résiste pas à l'envie d'effectuer un crochet de 20 mètres pour passer devant l'école. La place de la mairie n'a pas changé depuis toutes ces années, ni ses pierres blanches, ni l'ombre des tilleuls. Sauf que l'école a été reconstruite au début des années 1980, 3 ans avant ma retraite. Une affreuse école moderne, rose et blanc, couleur guimauve, à Giverny. Une honte. Mais il y a longtemps que je n'avais plus la force de me battre contre cette monstruosité. L'école maternelle qu'ils ont ouverte est pire encore, dans un préfabriqué juste en face. Enfin, tout cela ne me regarde plus. Maintenant, chaque jour, les enfants passent en courant devant moi sans me jeter un regard. Et je dois gronder Neptune pour qu'il les laisse tranquilles. Il n'y a plus que les vieux peintres américains pour me demander parfois un renseignement. Je redescends la rue Blanche Hoche des Monnaies. Mon logement de fonction, juste au-dessus de l'école, est devenu un magasin d'antiquités. Ma chambre en mansarde, avec sa lucarne ronde, sert avec les autres pièces de musée ringard pour citadins en mal d'objets ruraux prétendument authentiques. Chèque à la main. Plus jamais personne de cette lucarne ronde n'observera la pleine lune à son périgée. Mon Dieu, combien d'années, combien de nuits ai-je pu passer devant cette fenêtre? Dès mon enfance, hier encore. Devant l'antiquaire, un groupe d'adultes parle japonais, ou coréen, ou javanais. Je ne comprends plus rien à rien. Je suis un dinosaure dans un parc zoologique. Je continue à remonter la rue Claude Monet. Seul l'hôtel Bodhi n'a pas changé. Le décor Belle Époque, en terrasse, en façade et à l'intérieur, est entretenu avec minutie par les propriétaires successifs. Theodore Robinson pourrait revenir demain à l'hôtel Bodhi. Le temps s'y est arrêté depuis un siècle. 71 rue Claude Monet. Jérôme et Patricia Morval. Je passe rapidement devant la maison. J'y suis entrée il y a 4 jours. Il fallait que je parle à Patricia. Avec moi, elle est la dernière survivante du Giverny d'antan. Je n'ai jamais beaucoup aimé Patricia, vous le comprenez maintenant. Je crois que pour moi, elle restera toujours Marie la pleurnicheuse, Marie la rapporteuse. C'est ridicule, je vous le concède. Elle a tant souffert. Au moins autant que moi. Elle avait fini par céder au gros Camille, par se marier avec lui, et par un jeu cruel de vases communicants, plus le gros Camille devenait Jérôme Morval, brillant étudiant en médecine, plus Jérôme cherchait à séduire d'autres femmes, et plus elle s'attachait à lui. La vie s'est arrêtée dans cette maison, au 71 de la rue Claude Monet, en 1963. Jadis, c'était la plus belle du village. C'est une ruine, désormais. La mairie attend avec impatience que la veuve Morval meure pour se débarrasser de cette verrue. Il fallait bien que Patricia sache. Il fallait bien que Patricia connaisse le nom de l'assassin de son mari. Je lui devais bien cela. Cette petite rapporteuse de Patricia m'a surprise, au final. Je m'attendais à voir débarquer la police à mon moulin dès le lendemain. Elle n'avait pas hésité, en 1963, à envoyer au commissariat de Vernon des photographies anonymes des maîtresses supposées de Jérôme Morval. Moi, parmi d'autres. Curieusement, cette fois-ci, cela n'a pas été le cas. Il faut croire que la vie vous change. J'ai appris qu'elle ne sort presque plus de chez elle, depuis qu'un de ses neveux lui a fait découvrir Internet. Elle qui n'avait pas ouvert un ordinateur avant ses 70 ans. Ce n'est pas pour autant que j'ai envie de prendre le thé avec elle une dernière fois pour partager notre haine commune d'un monstre. Avant le grand saut. J'accélère le pas. Enfin, pour ce qui me concerne, l'expression est assez mal choisie. Neptune trottine 30 mètres devant moi. La rue Claude Monet s'élève doucement, comme un long chemin montant vers le ciel. « Stairway to Heaven » jouait une guitare il y a 2 générations.